Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. S'ouvrir sur le monde.
Vivre les différences.
Voir.
Sentir. Toucher. Entendre.
Regarde ailleurs, l'émission radio.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Martin est un chercheur, voire un espion selon certains Birmans. Je l'ai rencontré au Birmanie, au bord du lac Inle, où il a choisi de vivre pour étudier la société INTA et la place du lac Inle dans le développement économique du pays. Martin parle le birman et passe ses journées à faire des interviews, à rencontrer les locaux pour mieux comprendre le mode de vie des habitants. Nous avons passé quelques jours ensemble à la rencontre des pêcheurs. Dans la première partie de l'émission, Martin partage avec nous le fruit de ses travaux de recherche.
Depuis quelques jours, je suis ici en Birmanie, au lac Inle, et j'ai entendu à plusieurs reprises le mot Martin. Je dis Martin, qu'est-ce qu'il fait Martin? On me dit Martin, il fait quelque chose, un mémoire, une thèse, personne ne sait trop, mais sur le lac Inle. Je dis ok, super, et en plus je sais que Martin parle birman. Voilà, c'est un peu tout ce que je sais de toi. Donc maintenant, on va gratter un petit peu, et je vais te demander qui est Martin.
Martin, il est étudiant en géographie. J'ai toujours été passionné en fait par les voyages. Dans la famille, on a eu l'immense chance de voyager un petit peu. Donc, on a un peu grandi dans cette atmosphère-là, dans ce goût pour le voyage, les autres, un peu le dépaysement, l'exotisme et tout ça. Donc, il y a quelques temps, au cours d'une année de césure, en 2013 plus précisément, j'ai visité la Birmanie juste en tant que touriste. Et j'ai vraiment eu le coup de cœur pour ce pays parce que, alors maintenant ça devient un peu cliché, mais je souscris volontiers au cliché. La Birmanie est un pays encore très authentique. Très très différent des autres pays. C'est un pays qui s'ouvre depuis la transition démocratique de 2010. Donc c'est un pays qui s'ouvre, mais dans lequel il y a encore vraiment les traces de la Birmanie d'avant. Il y a même encore quelques traces de l'ère coloniale et tout ça. Et donc quand je suis venu ici en 2013, j'ai vraiment eu le coup de cœur pour la Birmanie, où tout est vraiment différent, tout est encore traditionnel. Les gens labourent les rizières avec des bœufs, les gens pompent l'eau à la main avec des pompes en bambou. On utilise des vieux camions qui doivent dater des années 50 ou 60, etc. Quand j'étais en 2013, j'avais été frappé de voir que peu de maisons, par exemple, ont des toits en tôle ou étaient faites en parpaing. Il y avait encore beaucoup, beaucoup de bambou et de toits de palme. Donc voilà, c'est ça qui m'attirait ici, voir un petit peu ce pays qui s'ouvre à la mondialisation, qui s'ouvre au monde, et voir comment ça le transforme et voir un peu la transition. Voir comment ça se passe et puis qui, en fait, intègre le pays dans la mondialisation, qui sont les gens derrière qui font rentrer le pays dans la mondialisation.
Avant d'y revenir, donc je vais quand même rester un peu sur cette époque de 2013 où tu viens pour la première fois en tant que voyageur, en tant que touriste. Qu'est-ce que tu as fait en 2013 ?
J'ai eu la chance de venir ici pendant un mois, enfin les 4 semaines de visa, c'est-à-dire le maximum possible. Donc pendant mes 4 semaines, j'ai été allé à Rangoon, j'avais fait ensuite le Rocher d'Or, j'étais allé dans la jolie petite ville de Molomyane, qui est aussi appelée Moulmein, au bord de la mer, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'étais allé à Bagan, ensuite Inle, bien sûr. Ensuite, j'étais allé à Sipo, donc au nord de l'État Shan, pour faire un peu de trek. À l'époque, il y avait encore peu de monde là-bas. Et puis, j'avais terminé dans la ville de Kata, donc, qui est au nord de la Birmanie, pas très loin de l'État Kachin, dans une petite ville de Kata, où je pensais prendre un vieux ferry pour descendre l'Irrawaddy. Puis finalement, j'ai changé mes plans, je me suis retrouvé dans un vieux train complètement déglingué en partance vers Michina, donc la capitale de l'État Kachin, où j'ai passé 2-3 jours. Puis au final, je suis rentré de Michina jusqu'à Rangoon en train, ce qui m'a fait, je crois, 36 heures ou 48 heures de train. Donc voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé cet itinéraire parce qu'en 4 semaines, j'avais eu le temps de voir les incontournables de la Birmanie, Rangoon, Mandalay, que j'ai oublié dans ma liste, Inle et Bagan, mais aussi de sortir un petit peu de ce grand circuit principal et de toucher un petit peu ces villes vraiment endormies. Moulmein, c'est une de mes villes préférées et ça l'est encore. Parce que c'est une ville qui paraît un peu endormie au bord de la rivière Salween au moment où elle va se jeter dans la mer. Et elle paraît vraiment endormie. Il y a des vieux monastères qui sont gris de poussière. À l'intérieur, il y a des vieilles statues qui sont couvertes de poussière et de toiles d'araignée. Mais dès que tu souffles sur la statue, dès que tu l'époussettes un peu, tu découvres du vert coloré, tu découvres un peu de la feuille d'or et tout ça. Et c'est extraordinaire. Donc voilà, c'est quelque chose que je conseille vraiment à tout le monde. Prenez le temps de visiter la Birmanie, trois semaines, quatre semaines vont vraiment vous permettre de toucher du doigt la vraie Birmanie, ce qui fait vraiment le charme de la Birmanie.
Et essayez de sortir un petit peu de cet itinéraire classique qui est donc Yangon, Bagan, Mandalay et le lac Inlay, parce qu'aujourd'hui la Birmanie s'ouvre et des régions qui avant étaient interdites ou pour lesquelles il fallait une autorisation ou un permis pour pouvoir y rentrer s'ouvrent aujourd'hui petit à petit.
Oui, tout à fait. Maintenant, ça devient de plus en plus facile de voyager en Birmanie. D'une part, les restrictions administratives ont été en bonne partie levées. Les transports sont de plus en plus rapides, de plus en plus confortables. Donc ça devient très facile. Par exemple, l'État Karen est désormais très accessible. Donc la région de Pa'an, près de la frontière thaïlandaise, est assez fabuleuse, avec des espèces de grands pics calcaires qui émergent des rizières. Quand la saison est bonne, c'est absolument magnifique. Toute la péninsule du Tenasserim qui descend le long de la frontière thaïlandaise, c'est magnifique aussi. C'est des plages vierges. C'est un petit peu les plages thaïlandaises telles qu'elles étaient il y a 30 ans. Donc le Tenasserim, l'État Karen, c'est désormais très accessible. Le mont Victoria au sud de l'État Chin. Il y a le lac de Ri qui est célèbre pour sa forme de cœur dans le nord de l'État Chin. Donc l'État Chin aussi s'ouvre bien et là il y a vraiment de l'aventure et du dépaysement assez accessible finalement.
On trouve des possibilités d'hébergement, des hôtels peuvent accueillir l'étranger ou le touriste.
Désormais oui, globalement tant qu'on ne s'aventure pas vraiment dans la jungle, il y a toujours une ou deux solutions d'hébergement très basiques, très rustiques, mais ceci ce qui fait encore un peu le charme de la Birmanie je pense. Donc dans ces villes-là, on peut toujours trouver un ou deux petits hôtels, pas bien chers, pour 6, 10 dollars, pour avoir une chambre très simple et au contact direct en fait, de la vie locale.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs, l'émission radio.
À travers ton regard, je me découvre.
Regarde d'ailleurs sur le chemin des différences.
Premier voyage en Birmanie en 2013, tu rentres en France avec cette envie d'y revenir. Comment tu as construit la suite de ton projet ?
Cette année de césure en 2012-2013, c'était mon année de césure juste avant mon Master 2 en géographie. Et j'ai quitté la France avec l'idée qu'au cours de mes pérégrinations, je pourrais trouver un sujet de mémoire intéressant pour mon Master 2 de géographie. Et je me rappelle très clairement la fois où j'ai quitté Niangshui en 2013. J'ai quitté Niangshui en sachant que j'y reviendrais. Et donc j'y suis retourné sur l'année universitaire 2014-2015 pour faire mon Master 2 de géographie que j'ai fait porter sur la région du lac Inlay. Et qui traite de manière assez générale de l'intégration de la région d'Inlay dans la mondialisation, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que, en fait, le lac Inlay, c'est une espèce de porte d'entrée par laquelle les flux de la mondialisation vont pénétrer en Birmanie. Donc, par exemple, j'ai enquêté sur l'agriculture flottante qui fait la célébrité du lac Inlay. J'ai pu constater que tous les engrais étaient importés, que les semences, c'est des semences Monsanto, que les tomates sont ensuite exportées dans tout le pays. Donc, bien loin d'être une petite agriculture très localisée, à petite échelle, c'est en fait une agriculture intensive et qui est tout à fait connectée en fait, au flux de la mondialisation.
Ici, sur le lac, donc effectivement, on parle des jardins flottants. Donc, dans ces jardins flottants, tu as des monocultures ou des cultures intensives.
Tout à fait. La culture de la tomate ici est extrêmement intensive. Donc, on découpe des bandes en fait, de végétation flottante dans les marécages. On les déplace devant sa maison. On les recouvre d'un peu de boue et puis d'algues aussi pour faire un substrat fertile. On plante des semences de tomates, donc des semences hybrides.
Comment est-ce qu'elles arrivent, ces semences ? Moi, je pensais effectivement que les paysans récupéraient les semences directement des tomates. Comment est-ce que les pesticides, tous les engrais arrivent ici, au lac Inlay, en Birmanie ?
L'agriculture flottante ici, elle a commencé à s'intensifier à partir des années 60. Ça fait déjà 50 ans qu'on est dans un système qui est de plus en plus intensif. Parce que l'amélioration des voies de communication a relié la région du lac Inlay à tout un marché national. Donc depuis 50 ans, on se procure des sacs d'engrais qui arrivent de Chine ou de Thaïlande, et puis même désormais d'Allemagne, de Russie. La qualité allemande, finalement, ne fait pas rêver qu'en France. Même ici, on vante la qualité des produits allemands. Donc Bayer, BASF et tout ça, on vend beaucoup de produits ici. Donc on importe des sacs d'engrais, soit clandestinement depuis la Thaïlande et la Chine, soit plus officiellement depuis le port de Rangoon. On importe des semences hybrides qui sont par exemple fabriquées par Monsanto, mais qui sont fabriquées en Inde, puis importées par la filiale thaïlandaise de Monsanto jusqu'au port de Rangoon, où là, ça va être emballé par un autre distributeur birman. Donc là, on a tous les circuits de la mondialisation qu'on peut retrouver ici à Inle, à partir du circuit d'une graine finalement. Et donc depuis 50 ans, l'agriculture est de plus en plus intensive, la demande nationale se fait de plus en plus forte. Et globalement, les gens du lac Inle sont relativement aisés. Si tu regardes l'architecture des maisons, tu vas voir que c'est des grosses maisons en bois de deux étages, avec garés sous la maison deux, trois, quatre bateaux. Donc il y a des véritables propriétaires fonciers au lac Inle qui possèdent des kilomètres linéaires d'îles flottantes, de jardins flottants, sur lesquels travaillent des dizaines et des dizaines de travailleurs journaliers. Donc c'est un système vraiment intensif. Je me suis livré à une petite estimation du rendement de la tomate ici. Si je me rappelle bien, on est à plus de 18 tonnes par hectare, ce qui place la région du lac Inle au-dessus de la moyenne du sud-est asiatique. C'est-à-dire que la tomate du lac Inle n'a pas du tout à rougir, façon de parler, face à ses concurrents thaïlandais, par exemple, ou vietnamiens, qui sont pourtant réputés comme étant plus avancés.
Mais la tomate du lac Inle n'est donc pas une tomate organique, biologique?
Non, la tomate du lac Inle est tout sauf bio. Quand on voit les fermiers qui épandent leur engrais, leurs pesticides dans les champs, il est évident qu'elle est tout sauf organique. Lors de mes interviews avec des travailleurs de la tomate, ils m'ont confié qu'eux-mêmes ne mangeaient pas leurs propres produits. Ils préfèrent acheter des tomates au marché, qui sont cultivés de manière un peu plus saine.
Et la tomate du lac Inle pousse donc sur le lac, donc tout ce qu'on y met va rentrer directement dans l'eau, il y aura un impact sur la faune aquatique.
Exactement, là on est en prise directe avec le milieu aquatique, il n'y a même pas de milieu qui puisse faire tampon entre ton plant de tomate et ton plant d'eau. Donc effectivement, comme tu as sûrement dû le voir aujourd'hui, l'eau est très trouble, ce n'est pas dû aux pesticides, mais déjà on perd beaucoup en transparence de l'eau. Et puis les analyses chimiques de l'eau montrent qu'elle est tout à fait impropre à la consommation et que les espèces de poissons sont gravement menacées. On estime que le lac il est plus ou moins en cours d'eutrophisation, donc ça c'est un terme un peu barbare qui indique que, en gros, les résidus d'engrais dans le lac permettent la prolifération de plein d'algues qui vont consommer l'oxygène présent dans l'eau, ce qui est très néfaste pour notamment la faune. Et donc, un des autres volets de mon mémoire, c'était des interviews un petit peu approfondies avec les pêcheurs du lac. Il apparaît que leur situation est très mauvaise. Les prises de poissons chutent à une vitesse inquiétante. Par exemple, il y a 20 ans, en une demi-journée de pêche, on pouvait attraper 10 kilos de poissons, avec des gros poissons qui faisaient 2 kilos pièce, etc. Aujourd'hui, ils doivent travailler toute la journée pour ramasser 3, 4 kilos de poissons, et encore quand ça marche bien.
Tu dis que donc, la faune aquatique est en train de diminuer. Est-ce que c'est essentiellement dû à la prolifération des pesticides, ou est-ce qu'il y a peut-être aussi de la surpêche qui a fait que cela a entraîné une diminution du poisson, ou à quoi cela est dû?
C'est toujours assez difficile de se faire une idée précise. Pour une raison à laquelle on est toujours confronté en tant que chercheur, c'est l'absence totale de sources, un tant soit peu fiable sur la Birmanie. D'après mes interviews, il y a effectivement un rôle important de la surpêche de la part des pêcheurs d'ici. On peut imaginer une espèce de cercle vicieux dans lequel les poissons se font plus rares, les espèces endémiques se font plus rares. Du coup, si on veut continuer à dégager un certain bénéfice avec du tilapia qui ne vaut pas grand-chose, on est obligé d'en pêcher encore plus. Il y a aussi la pêche à l'électricité qui se répand pas mal au lac Inle, avec des rendements qui varient d'un pêcheur à l'autre. Mais j'ai obtenu des chiffres qui montaient jusqu'à 30 kilos de poissons, ce qui est énorme pour un pêcheur d'ici, quelques heures à la pêche électrique. Donc je pense que c'est un effet combiné finalement de la pollution, de aussi l'augmentation du trafic sur le lac qui rend l'eau très trouble et très opaque, ce qui n'est pas les meilleures conditions pour la vie aquatique, plus la surpêche.
Le lac Inle est aussi devenu connu grâce à ces pêcheurs qu'on voit ramer avec une jambe. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu de ces pêcheurs-là?
C'est vrai que cette technique pour se déplacer est vraiment unique. En fait, je pense que l'une des raisons principales, c'est que tous ces villages-là sont situés sur l'eau et qu'on a toujours besoin de son canoë, même pour faire 2 mètres pour aller chez le voisin ou pour aller au magasin, plutôt que de s'asseoir dans le canoë, s'asseoir en tailleur, prendre la rame, etc. On descend de son escalier et on continue en fait le mouvement sur le bateau, on continue à marcher sur le bateau, et même le mouvement en fait de marche est presque répété dans le mouvement de la rame. Donc c'est une espèce de fluidité complète entre ma maison, le bateau, et puis l'autre maison par exemple, ou le magasin. Quand on les voit, ils ont un canoë de 4 ou 5 mètres de long, et ils sont debout sur les 20 derniers centimètres du bateau, sur un pied. Ils se déplacent avec un naturel et une souplesse qui est vraiment extraordinaire.
Et après, tu as encore l'étape d'au-dessus où tu les vois non seulement ramer avec une jambe, mais avec l'autre jambe tenir le filet pour se faire prendre en photo. C'est aussi une performance artistique, ça, d'arriver à faire de telles poses sur ces 20 centimètres au bout de leur bateau.
Ah oui, là, on rentre carrément dans la danse de ballet, effectivement. Ces pêcheurs qui brandissent leurs filets coniques, qui sont très symboliques en fait, de la région d'Inlay, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Ce mouvement de la jambe, je me suis un petit peu penché dessus pour mes recherches. Et en fait, il apparaît que les vrais pêcheurs ne font absolument pas ce mouvement de la jambe. C'est juste qu'il y a une dizaine d'années, ils ont commencé à avoir des sollicitations de la part des guides touristiques qui voulaient que les pêcheurs posent pour leurs clients, pour les photos. Alors en fait, il faut s'imaginer que le pêcheur Inta travaille avec un grand filet conique qui fait environ 1 mètre de diamètre à la base et puis on va dire 20 cm de diamètre au sommet et qui fait environ 1 m50 de haut. Donc c'est quelque chose d'assez massif. Le tout est fait en bambou sur lequel est tendu un filet. Et donc il faut imaginer le pêcheur Inta en équilibre sur un pied à la poupe de son bateau et qui cale la base du filet entre ses orteils et qui va monter la jambe très haut à l'horizontale dans une position assez acrobatique. Et il peut tenir la pose 5-10 secondes sur son petit canoë instable pour les besoins du visiteur.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
L'émission radio pour se découvrir soi.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Alors je suis allé les rencontrer aussi, ces pêcheurs, et je leur ai demandé s'ils étaient pêcheurs avant de faire ça, quel était le modèle économique le plus rentable, est-ce que c'était le poisson ou est-ce que c'était d'attendre à la sortie du canal de Niangshui pour se faire prendre en photo.
La réponse qu'ils ont dû te dire, c'est que c'est quand même infiniment plus simple de faire ce travail-là de pêcheur pour les touristes que de pêcher pour de vrai. Ce qui peut être d'ailleurs une bonne nouvelle pour l'environnement d'Inlay. Mais globalement, ces gens-là n'attrapent pas un poisson de la journée. En général, ils font l'effort de pêcher un poisson ou d'acheter un poisson au marché et le gardent au fond du canoë pour ensuite l'exhiber aux visiteurs pour montrer que le but de la manœuvre est quand même in fine de prendre du poisson. Mais oui, d'un point de vue purement économique, un pêcheur comme ça gagne entre 5 000 et 10 000 tchats dans la journée, ce qui fait, on va dire, 4 à 8 euros dans la journée, avec une dose de travail quand même assez minime. Donc il a une vie tout à fait confortable pour 4 ou 8 euros par jour, alors qu'en travaillant toute la journée sous le soleil en tant que pêcheur, donc vrai pêcheur, il peut gagner 4 euros peut-être.
Et comment sont perçus les pêcheurs à touristes par les pêcheurs, les vrais pêcheurs, ceux qui passent la journée sous le soleil justement, essayer de récupérer quelques kilos de poissons?
Mais c'est assez intéressant de remarquer qu'il y a quand même une certaine pression de leur village vis-à-vis de ces pêcheurs, qui sont assez volontiers considérés comme des mendiants. Ils me parlaient de lazy job. Les habitants du lac Inlay ont toujours eu la réputation d'être des gros travailleurs et d'être aussi relativement fiers. Donc, attendre les touristes de manière statique, attendre le revenu qui viendrait de quelqu'un d'autre, d'un étranger, ça n'est pas forcément très bien considéré. Mais les avantages concrets et immédiats du métier l'emportent quand même largement sur les scrupules. En haute saison, les grands hôtels des environs font aussi appel à eux pour faire des démonstrations de pêche, avec tous les guillemets nécessaires, des démonstrations de pêche dans l'enceinte de leur hôtel. Et pour ça, ils sont payés parfois 40 000 tchats, ce qui équivaut à 32 ou 35 euros. ce qui est un revenu très important pour une famille de pêcheurs. Donc quand je discutais avec ces pêcheurs qui m'ont montré leur maison, qui m'ont expliqué fièrement que leurs enfants allaient à l'école et que maintenant ils étaient en mesure de leur acheter des vêtements, qu'ils étaient en mesure d'envoyer leurs enfants à la clinique privée pour les soigner quand il y avait besoin, on sentait quand même que l'impact économique du tourisme est une véritable manne pour eux.
Est-ce qu'ils sont de plus en plus nombreux à l'entrée du lac ?
Alors, c'est quelque chose d'assez rigolo. Il y a à peu près un an, j'avais remarqué que tous les pêcheurs, tous ces faux pêcheurs, étaient concentrés à l'entrée du lac. Et puis, en fait, leur nombre grossissant, j'ai l'impression que ça perdait en naturel. C'est-à-dire que le touriste était accueilli par un groupe de 15 pêcheurs qui jouaient des coudes pour monter leur filet le plus haut possible. Finalement, le charme n'opérait plus. Les visiteurs se rendaient clairement compte que c'était une mise en scène. Et donc, depuis quelques mois, j'ai pu remarquer que la tendance était à l'éparpillement des pêcheurs, désormais, sur le lac Kinley, pour essayer en fait de reconstituer et de réintroduire un petit peu de surprise, finalement, dans la rencontre entre le pêcheur et le touriste.
Tu habites dans le village de Nyangshui, pas trop loin du lac Kinley. Parle-moi un peu de ton quotidien ici.
Alors, ça fait un an et demi que je suis installé ici à Nyangshui, avec un quotidien qui me plaît beaucoup, parce que je suis très libre, en fait, de ce que je fais. Je suis très libre de mon emploi du temps, je n'ai de compte à rendre à pas grand monde. Et donc, mon quotidien est principalement constitué d'entretiens avec des acteurs de la région, des gens qui font la région, des gens qui construisent le tourisme, qui le font fonctionner. C'est ça, en fait, qui m'intéresse dans ma thèse. Concrètement, il y a 20 ans, il y avait un nombre négligeable de touristes qui venaient ici. Il n'y avait qu'une seule petite guest house en ville. Et en 20 ans, on est passé du statut de destination très confidentielle au statut d'incontournable de la Birmanie. L'année dernière, il y a environ 170 000 étrangers qui sont venus ici pour visiter la région, alors qu'il y a 20 ans, ça devait se compter en quelques milliers. Et donc, comme je te l'ai dit, il est très difficile d'obtenir des sources statistiques un tant soit peu fiables ici, ou même non fiables. Les officiels du gouvernement sont tous sauf coopératifs, ou sinon les données n'existent carrément pas. Mon seul recours pour comprendre la région, c'est d'interroger les gens. Donc, tous les jours, je me lève et puis je fais les entretiens dont j'ai envie, en fonction des disponibilités de chacun, en fonction de mes humeurs, en fonction de mes priorités du moment. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que je rencontre toute une variété en fait, d'acteurs très, très différents. Donc, j'interroge les pêcheurs du lac Kinley, donc les vrais, les plus modestes, les faux, ceux qui posent pour les photos. J'interroge des conducteurs de bateaux, j'interroge des guides touristiques, j'interroge des touristes mêmes, j'interroge des managers d'hôtels, birmans comme étrangers. Je me bats avec des fonctionnaires de l'administration pour essayer d'avoir quelques miettes de statistiques. Toute cette gamme en fait, d'acteurs qui m'intéresse énormément et qui me tient à cœur.
À qui profite le tourisme ? Tu parlais de 170 000 visiteurs l'année dernière. Quand on arrive ici sur le site de Nyangshui, on passe par une sorte de checkpoint où tout le monde doit payer 20 000 ou 25 000, je ne sais plus, kyat. Donc l'équivalent de un peu plus, c'est pas 25 000 kyat ?
Non, les frais d'entrée dans la région d'Inlay s'élèvent à 10 dollars ou 12 500 kyat. Okay. Là, c'est l'exemple, je pense, qui illustre le mieux les défis du tourisme dans la région du lac Inlay. L'un des gros défis du tourisme au lac Inlay, c'est le défi de la transparence et de la réelle redistribution des fruits du tourisme. Donc, par exemple, les 10 dollars de frais d'entrée à la région d'Inlay, qu'on vend comme étant une contribution à la protection de l'environnement, à la restauration de l'environnement, etc. En fait, tout simplement, ces 10 dollars ne sont pas levés par le gouvernement, mais sont levés par une compagnie privée qui a gagné de manière tout à fait opaque aux enchères le droit de lever ce frais d'entrée. Donc, concrètement, cette compagnie a payé 2 millions de dollars au gouvernement de l'État Chan, au gouvernement local. Et ensuite, 100% des frais d'entrée qui seront collectés vont aller dans les poches de cette compagnie privée. Donc l'argent que l'on paye, les 10 dollars, ne vont pas au gouvernement mais à la compagnie, et les 2 millions de dollars que la compagnie a payé au gouvernement, il est absolument impossible de savoir quel usage en est réellement fait. Officiellement, il y en a une partie qui est redirigée vers le lac Kinley, mais dans les faits, c'est très, très obscur. Il y en a une énorme partie qui reste dans les poches du gouvernement Chan ou dans les poches des dirigeants de l'État Chan. Et la petite partie qui est redirigée vers le lac Kinley, elle est redirigée par le biais de ce qu'on appelle le département de l'irrigation, c'est-à-dire le département qui est en charge de draguer le lac qui est en train de se sédimenter. Et en fait, entre l'État Chan et le département de l'irrigation, il y a énormément de fuites d'argent. Donc globalement, ces 10 dollars d'entrée ne profitent que de manière extrêmement marginale à la région du lac Kinley.
Et la compagnie privée qui, elle, gère donc les rentrées d'argent, ne les utilise absolument pas pour aider des projets locaux?
Non, absolument pas. Ça fait 4 ans en fait, que c'est la même compagnie qui lève les frais d'entrée sous en fait, le couvert de 4 sociétés écrans. Donc officiellement, ce n'est pas la même, mais en fait, c'est la même. Et cette compagnie, en fait, loin de bénéficier aux habitants locaux ou de les aider, au contraire, elle leur nuit plutôt. Par exemple, je ne sais pas si tu as vu, mais au sud-est du lac, il y a toute une zone de collines qui est complètement déboisée, ouais, avec des routes qui sont tracées au beau milieu de nulle part.
Ce qu'on voit quand on est en pirogue, on voit dans la montagne, la montagne a été creusée, quoi.
Oui, tout à fait. Donc cette immense zone de 250 hectares, c'est un projet pharaonique et surdimensionné de zone hôtelière que le gouvernement Chan a voulu lancer en 2012. Donc sous couvert de tourisme durable, on va essayer de concentrer les nuisances, on va essayer de mieux gérer le tourisme, on va zoner le territoire, etc. Donc sous le couvert de concepts plutôt positifs, en fait, ils ont plutôt saisi cette occasion-là pour arracher donc 250 hectares de terre aux populations qui les cultivaient, avec des compensations absolument ridicules, et dont d'ailleurs une grande partie n'a toujours pas été versée 4 ans après. Donc les populations se sont fait mettre dehors de leurs propres terres du jour au lendemain. Un matin, en allant au champ, ils ont vu les bulldozers au travail et on leur a dit que de toute façon, ça ne servait à rien de protester parce que c'est un projet du gouvernement. Et donc, qui dit projet du gouvernement dit impossibilité de s'y opposer. Le conflit est allé assez loin. Il y a eu des affrontements entre la population et la police. Il y a eu plusieurs personnes qui se sont fait arrêter, qui ont passé quelques semaines en prison. Il y a eu des raids nocturnes de la police à 1h du matin qui déboulent dans les villages pour intimider la population. Donc, en fait, ce projet de zone hôtelière, il est officiellement mené par le gouvernement de l'État Chan, mais en fait, c'est cette même compagnie privée sulfureuse qui assure la maîtrise d'ouvrage de la zone hôtelière. Clairement, c'est un projet qui ne contribue absolument pas au bien-être de la population. Une de mes hypothèses de recherche, c'est que dans les années 90, le tourisme ici, au lac Kinley, était principalement géré par des acteurs locaux. C'est-à-dire que c'était la petite famille de notables du coin qui avait pu dégager un peu d'argent du commerce des fruits et légumes, de la fabrication de cigares ou qui avait un moulin à riz. Donc ce genre de famille-là ouvrait une petite guest house très modeste d'une dizaine de chambres, puis dégageait des revenus bienvenus du tourisme. Depuis l'ouverture du pays en 2010, il y a des nouveaux acteurs extérieurs qui sont rentrés dans la partie. Donc des très riches birmans de Rangoon, de Mandalay, de Taonji, la capitale de l'État Chan, qui est à 1 heure de route d'ici, qui ont eu énormément d'argent à l'époque de la junte, par le biais de trafic, de corruption, de marchés publics truqués, etc. Donc c'est des gens qui ont énormément d'argent, qui cherchent à le réinvestir, voire à le blanchir tout simplement, et qui sont donc arrivés ici à Inley, et c'est eux qui construisent ces grandes tours de 5-6 étages qu'on peut voir en ce moment en construction. Donc dans ces hôtels-là, si on demande un petit peu à la réceptionniste d'un air un peu naïf qui est le propriétaire, elle va juste dire « Ah, c'est un Chan de Taonji ». Mais en fait, si on gratte un peu, il s'avère que c'est un marchand de tech, c'est un trafiquant de drogue, c'est un marchand de pierres précieuses, mais qui dit marchand de pierres précieuses dit aussi trafiquant de pierres précieuses, tel ou tel haut gradé de l'armée, un ex-ministre, des choses comme ça, parce qu'ils sentent que dans les années à venir, il faudrait veiller à être un petit peu plus transparent en fait, dans leurs affaires. Donc ils sentent bien que l'argent de la drogue, il faut se débrouiller pour le faire venir d'une source un peu plus recommandable, un peu plus fréquentable. Et l'hôtellerie est un très bon marché pour ça.
Regarde ailleurs, l'émission radio sur le chemin des découvertes.